Allons, il faut y aller, s'écria le soldat. Il commanda de seller son cheval et se mit en route par une de ces matinées de décembre où le ciel est couvert d'un voile grisâtre, où le vent n'est pas assez fort pour chasser le brouillard à travers lequel les arbres décharnés et les maisons humides n'ont plus leur physionomie habituelle. Le silence était terne, car il est d'éclatant silence. Par un beau temps, le moindre bruit a de la gaieté, mais par un temps sombre, la nature n'est pas silencieuse, elle est muette. Le brouillard, en s'attachant aux arbres, s'y condensait en gouttes qui tombaient lentement sur les feuilles, comme des pleurs. Tout bruit mourait dans l'atmosphère. Le colonel Genesta, dont le cœur était serré par des idées de mort et par de profonds regrets, sympathisait avec cette nature si triste. Il comparait involontairement le joli ciel de printemps et la vallée qu'il avait vue si joyeuse pendant son premier voyage, aux aspects mélancoliques d'un ciel gris de plomb, à ces montagnes dépouillées de leur verte parure et qui n'avaient pas encore revêtu leur robe de neige, dont les effets ne manquent pas de grâce. Une terre nue est un douloureux spectacle pour un homme qui marche au-devant d'une tombe. Pour lui, cette tombe semble être partout. Les sapins noirs qui, çà et là, décoraient les cimes, mêlaient des images de deuil à toutes celles qui saisissaient l'âme de l'officier. Aussi, toutes les fois qu'il embrassait la vallée dans toute son étendue, ne pouvait-il s'empêcher de penser au malheur qui pesait sur ce canton et au vide qui faisait la mort d'un homme. Genesta arriva bientôt à l'endroit où, dans son premier voyage, il avait pris une tasse de lait. En voyant la fumée de la chaumière où s'élevaient les enfants de l'hospice, il songea plus particulièrement à l'esprit bienfaisant de Benassi, et voulut y entrer pour faire en son nom une aumône à la pauvre femme. Après avoir attaché son cheval à un arbre, il ouvrit la porte de la maison sans frapper. « Bonjour la mère !» dit-il à la vieille, qu'il trouva au coin du feu et entouré de ses enfants accroupis. « Me reconnaissez-vous ? Oh oui, bien, mon cher monsieur ! Vous êtes venu par un joli printemps chez nous, et vous m'avez donné 2 écus. Tenez, la mère, voilà pour vous et pour les enfants. Mon bon monsieur, je vous remercie. Que le ciel vous bénisse. Ne me remerciez pas. Vous devez cet argent au pauvre père Benassi. » La vieille leva la tête et regarda Genesta. Ah, monsieur, quoiqu'il ait donné son bien à notre pauvre pays, et que nous soyons tous ses héritiers, nous avons perdu notre plus grande richesse, car il faisait tout venir à bien ici. Adieu, la mère. Priez pour lui, dit Genesta après avoir donné aux enfants de légers coups de cravache. Puis, accompagné de toute la petite famille et de la vieille, il remonta sur son cheval et partit. En suivant le chemin de la vallée, il trouva le large sentier qui menait chez la fosseuse. Il arriva sur la rampe d'où il pouvait apercevoir la maison, mais il n'en vit pas, sans une grande inquiétude, les portes et les volets fermés. Il revint alors par la grande route dont les peupliers n'avaient plus de feuilles. En y entrant, il aperçut le vieux laboureur presque endimanché, qui marchait lentement tout seul et sans outils. « Bonjour, bonhomme Moreau !»« Ah, bonjour, monsieur. Je vous remets... » ajouta le bonhomme après un moment de silence. « Vous êtes un ami de défunt monsieur de notre mère. Ah, monsieur, ne valait-il pas mieux que le bon Dieu prît à sa place un pauvre sciatique comme moi? Je ne suis rien ici, tandis que lui était la joie de tout le monde. Savez-vous pourquoi il n'y a personne chez la fosseuse ?» Le bonhomme regarda dans le ciel. « Quelle heure est-il, monsieur ? On ne voit point le soleil, dit-il. Il est 10 heures. Oh bien !» Elle est à la messe ou au cimetière. Elle y va tous les jours. Elle est son héritière de 500 livres de viager et de sa maison pour sa vie durante. Mais elle est quasi folle de sa mort. Où allez-vous donc, mon bonhomme? À l'enterrement de ce pauvre petit Jacques, qu'est mon neveu. Ce petit chétif est mort hier matin. Il semblait vraiment que ce fût ce cher monsieur Benassi qui le soutint. Tous ces jeunes, ça meurt! Ajouta Moreau d'un air moitié plaintif, moitié goguenard. À l'entrée du bourg, Genesta arrêta son cheval en apercevant Gondrin et Gogola, tous deux armés de pelles et de pioches. Eh bien, mes vieux troupiers, leur cria-t-il, nous avons donc eu le malheur de le perdre. Assez, assez, mon officier, répondit Gogla d'un ton bourru. Nous le savons bien. Nous venons de tirer des gazons pour sa tombe. Ne sera-ce pas une belle vie à raconter? Dit Genesta. Oui, reprit Gogla. C'est, sauf les batailles, le Napoléon de notre vallée. En arrivant au presbytère, Genesta aperçut à la porte Butifère et Adrien, causant avec M. Janvier, qui revenait sans doute de dire sa messe. Aussitôt Butifère, voyant l'officier se disposer à descendre, alla tenir son cheval par la bride, et Adrien sauta au cou de son père, qui fut tout attendri de cette effusion. Mais le militaire lui cacha ses sentiments et lui dit « Vous voilà bien réparé, Adrien. Tudieu, vous êtes, grâce à notre pauvre ami, devenu presque un homme. Je n'oublierai pas Maître Butifère, votre instituteur. » « Ah, mon colonel, dit Butifère, emmenez-moi dans votre régiment. Depuis que monsieur le maire est mort, j'ai peur de moi. Ne voulait-il pas que je fusse soldat? Eh bien, je ferai sa volonté. Il vous a dit qui j'étais. Vous aurez quelque indulgence pour moi. » « Convenu, mon brave, dit Genesta en lui frappant dans la main. Sois tranquille, je te procurerai quelque bon engagement. Eh bien, monsieur le curé, monsieur le colonel, je suis aussi chagrin que le sont tous les gens du canton, mais je sens plus vivement qu'eux combien est irréparable la perte que nous avons faite. Cet homme était un ange. Heureusement, il est mort sans souffrir. Dieu a dénoué d'une main bienfaisante les liens d'une vie qui fut un bienfait constant pour nous. Puis-je vous demander sans indiscrétion de m'accompagner au cimetière? Je voudrais lui dire comme un adieu. » Butifère et Adrien suivirent alors Genesta et le curé, qui marchèrent en causant à quelques pas en avant. Quand le lieutenant-colonel eut dépassé le bourg, en allant vers le petit lac, il aperçut, au revers de la montagne, un grand terrain rocailleux environné de murs. « Voilà le cimetière, lui dit le curé. 3 mois avant d'y venir, lui, le premier, il fut frappé des inconvénients qui résultent du voisinage des cimetières autour des églises, et, pour faire exécuter la loi qui en ordonne la translation à une certaine distance des habitations, il a donné lui-même ce terrain à la commune. Nous y enterrons aujourd'hui un pauvre petit enfant. Nous aurons ainsi commencé par y mettre l'innocence et la vertu. La mort est-elle donc une récompense? Dieu nous donne-t-il une leçon en appelant à lui 2 créatures parfaites? Allons-nous vers lui lorsque nous avons été bien éprouvés au jeune âge par la souffrance physique et dans un âge plus avancé par la souffrance morale? Tenez, voilà le monument rustique que nous lui avons élevé. » Genesta aperçut une pyramide en terre, haute d'environ 20 pieds, encore nue, mais dont les bords commençaient à se gazonner sous les mains actives de quelques habitants. La fosseuse fondait en larmes, la tête entre ses mains, et assise sur les pierres qui maintenaient le scellement d'une immense croix faite avec un sapin revêtu de son écorce. L'officier lut, en gros caractères, ces mots gravés sur le bois. « Deo optimo maximo. Ô Dieu très bon, très grand. Sigi, le bon monsieur Benassi, notre père à tous, priez pour lui. » « C'est vous, monsieur, dit Genesta, qui avez... »« Non, répondit le curé. Nous avons mis la parole qui a été répétée depuis le haut de ces montagnes jusqu'à Grenoble. » Après être demeuré silencieux pendant un moment et s'être approché de la fosseuse qui ne l'entendit pas, Genesta dit au curé « Dès que j'aurai ma retraite, je viendrai finir mes jours parmi vous. » Balzac, octobre 1832, juillet 1833.